des formes utiles. L'art et ses récits, une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis en compagnie de Mathilde Capone pour la deuxième partie de notre entretien. Mathilde Capone vit au Québec, à Le Soir dit Montréal. Elle est cinéaste, militante, animatrice en éducation populaire. Son film documentaire Éviction sera projeté le 17 novembre prochain au MK2 Beaubourg dans le cadre de la 30e édition du festival Chéri Chéri. Si dans la première partie de notre dialogue, nous avons parlé de ses questionnements et recherches, de son choix de vivre au Québec, essayer de comprendre comment devient-on Mathilde Capone, dans cette deuxième partie, tout en continuant à parler de sa recherche, nous allons parler de ses engagements, actions et activités militantes, de sa création d'outils pour façonner d'autres possibles. Bonjour Mathilde. Pour revenir aussi au cinéma. Mmh. En parallèle et après ta maîtrise en anthropologie sociale, tu as suivi plusieurs formations sur des logiciels de traitement de l'image, sur l'écriture de scénarios, sur le montage. À quel moment as-tu su que le cinéma sera un de tes outils de travail? Et pourquoi le cinéma comme outil de recherche?
Bonjour! Ben en fait, moi, quand je suis arrivée ici, et la première année, je me disais, j'étudiais en droit, mais c'est intéressant, mais quand j'étais en France, j'étais quand même une enfant... assez obéissante dans le sens où j'étais très travailleuse à l'école, j'avais envie de réussir, j'étais quand même prise dans un système de performance et aussi de compétition parce qu'en fait on grandit dans un système éducatif extrêmement compétitif aussi. Et le fait d'arriver ici, ça m'a fait énormément de bien d'avoir rencontré beaucoup de gens ici qui m'ont amenée à me positionner politiquement contre beaucoup de choses. Je travaillais quand même pour l'université, mais je mettais beaucoup moins d'attention. Et notamment à cette époque-là, j'ai commencé à faire des ateliers de photographie. Dans les dernières années avant que j'arrive ici, je faisais beaucoup de photos. Et j'ai pris donc des ateliers de photos et finalement, je me suis procuré une caméra pour la photo, mais qui aussi filmait. Et le premier, et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça fait quand même du lien avec Éviction d'une certaine manière, et la première fois que j'ai commencé à filmer quelque chose, c'est que j'habitais dans un grand lieu collectif. On était 13 à habiter là, il y avait beaucoup de chambres, beaucoup de monde, et c'était un lieu d'organisation. C'était quand même le bazar un peu là, mais c'était un lieu d'organisation, un lieu alternatif, à la fois un peu hippie, à la fois un peu d'organisation politique aussi, un peu plus anarchiste. Et j'étais fascinée par les personnes que je rencontrais et j'ai commencé à filmer un peu dans le quotidien. Je filmais les gens dans leur chambre qui faisaient des affaires ou des moments collectifs, des rencontres. Et j'ai fait un petit montage à partir de ça, mais j'ai appris complètement toute seule à filmer. Là. J'en ai fait un petit film. Et après, dans le cadre de ma maîtrise en anthropologie, j'ai fait deux cours où je pouvais rédiger moi-même quelque chose sur un sujet. Et j'ai décidé d'à la fois rédiger quelque chose et à la fois faire un film. Et le film, c'était sur l'alimentation alternative. Et je filmais des gens qui faisaient de la récup dans les poubelles, en fait, des supermarchés, parce qu'évidemment, il y a énormément de gaspillage de nourriture. Et les supermarchés jettent de la nourriture qui est encore extrêmement bonne, et parce que la date de péremption est passée. Moi, je fais toujours partie de communautés qui font beaucoup ce qu'on appelle de la récup, du dumpster diving, et pouvoir, par exemple, faire de la bouffe pour des manifs, mais aussi juste nourrir les gens et redistribuer dans les colocations, dans les habitations, des gens autour de nous, pouvoir vivre avec moins d'argent, en fait. Donc, j'ai fait un petit film là-dessus. Et puis, dans le courant de ma maîtrise, j'ai travaillé sur les processus de résistance des Innus de la communauté de Pessamit face à la violence systémique. C'est un sujet extrêmement large. Je le referais, je prendrais un sujet un peu différent, mais je suis allée vivre pendant 4 mois dans la communauté de Pessamit. Et ça, c'est sûr que ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie. Parce que j'ai appris énormément et je suis énormément redevable et reconnaissante de toutes les personnes là-bas qui m'ont accueillie et qui m'ont partagé un morceau de leur histoire, de leur intimité, de leur vie, de leur cœur, de leur famille. J'ai habité là-bas pendant 4 mois et je suis revenue à chaque année ou aux 2 ans depuis. Ça, c'était en 2013. Et je me disais, mais il faut absolument que je trouve un moyen de redonner aux gens quelque chose face à tout ce que les gens m'ont donné. Un mémoire à l'université, il y a très peu de personnes qui vont le lire. Évidemment, j'ai aussi été très rapidement traversée par toute la question de l'origine coloniale de l'anthropologie, mais aussi des dynamiques actuelles de colonisation qui perdurent dans la discipline. Et encore une fois, en tant que personne allochtone qui va faire une recherche dans une communauté autochtone, tu sais, c'était il y a 10 ans aussi, là. Je ne sais pas si je le referais aujourd'hui, là, de la même manière en tout cas. Même si moi, ça a bouleversé ma vie et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et ça a réellement eu un impact sur comment je me suis organisée politiquement par la suite. Mais c'est sûr que c'est, encore une fois, savoir d'allochtone qui est produit sur des communautés, des nations autochtones. Et ça pose beaucoup de questions sur comment ça reproduit des schèmes coloniaux. Mais bref, moi, j'étais là et je cherchais un moyen de redonner quelque chose face à cette communauté, face aux personnes qui m'avaient accueilli, qui avaient accepté de me rencontrer et de participer à ma recherche. Mais déjà, j'ai choisi aussi dans mon mémoire de morceaux d'entrevues. Moi, j'ai retranscrit l'ensemble de mes entrevues que j'ai faites. J'ai fait une vingtaine d'entrevues durant ce terrain-là et j'ai retranscrit l'ensemble de ces entrevues et j'ai proposé à chaque personne que j'avais rencontré de lui redonner le verbatim de l'entrevue pour que ça puisse être aussi quelque chose qui fasse partie de la mémoire des archives de la personne. Et je me souviens notamment une personne qui a été extrêmement touchée de ce travail-là et du fait que je lui redonne cet écrit. Mais dans mon mémoire lui-même, j'utilise beaucoup, beaucoup de citations, mais de citations longues et je ne touche pas du tout au texte. C'est pour ça que le mémoire est assez long. J'ai vraiment fait le choix de laisser la parole se déployer, même si évidemment j'en dis quelque chose, puisqu'il y a quand même ce devoir-là d'analyse autour des propos et d'arriver vers une pensée dans un mémoire. On ne peut pas s'en défaire complètement, mais j'ai quand même fait le choix de laisser des longs morceaux de parole. Et aussi, je cherchais une autre manière de rendre aux gens qui m'avaient accueilli un morceau de ce travail-là que j'avais fait. Et donc, j'ai décidé de filmer pendant mon terrain. Et je faisais donc d'abord des entrevues audio avec les gens. Et les personnes qui étaient d'accord, je retournais les voir et je les filmais. J'étais là avec ma caméra toute seule. Ça manquait vraiment de technique. Mais au niveau du fond, c'était quand même extrêmement intéressant parce que j'ai réussi à récolter des paroles incroyables de gens qui se sont livrés, qui m'ont raconté leur histoire. Et à partir de ce matériel-là, j'ai monté un film, encore une fois toute seule. Alors évidemment, le résultat, comme je disais, ça laisse à désirer au niveau de la technique, là, parce que je n'avais pas encore une vision en termes de forme, je n'avais pas de vision cinématographique qui était déployée. Mais j'ai gravé des DVD pour chaque personne qui avait participé et je suis retournée à Pessamit et j'ai regardé avec chaque personne le film. On l'a regardé ensemble et là, j'ai pris des commentaires, j'ai noté des choses que les gens me disaient et j'en ai refait une nouvelle version que j'ai renvoyée aux gens après. Qui est la version finale. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce processus-là, bah, c'est que déjà, bon, les gens ont adoré, je pense, se voir et qui est comme quelque chose, une trace, quelque chose qui reste de mon séjour. Mais aussi, il y a notamment une personne qui m'a dit, ah, c'est fou, cette personne-là, je ne savais pas qu'il pensait ça. Bah, ça me donne envie d'aller lui parler. Il y avait beaucoup de conflits dans la communauté de Pessamit, qui est aussi dû, bien sûr, à des dynamiques d'imposition de systèmes coloniaux, là, et la détérioration, en fait, de modes d'organisation, de modes de vie traditionnels qui ont été détruits. Le fait que cette personne-là me dise, ah, l'autre personne qui voyait à l'écran, finalement, on a l'air d'avoir des avis semblables, ça me donne envie d'aller lui parler. Ça, pour moi, ça a été une grande réussite de me dire, ah, il y a quelque chose qui se passe à travers ce processus-là, qui, j'espère, a un impact positif. C'est minime, évidemment, c'est tout petit, hein, mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose là qui m'a intriguée, qui m'a intéressée face à la force d'un documentaire finalement. C'est ça la première chose que j'ai fait au niveau du film, le point d'entrée, je dirais.
J'ai trouvé un poème que j'aimerais lire. Je pense que c'est un bon moment. Il s'appelle Toundra, bâton à message. Joséphine Bacon. Tu as vu naître ma famille. J'écoute ton cœur. Le tambour rythme ma vie. Je vis au présent le passé des ancêtres. Je sens le maître des animaux, de mes grands-pères chasseurs, les berceuses anciennes de mes grands-mères. Je l'évite. Mes pas se laisse porter sur le lichen qui nourrit Papa Cacique. Les fleurs se transforment en de petites baies aux couleurs rouges, jaunes. Le noir est le sommeil qui donne forme à mes visions. La tradition orale rassure mes peurs de blanc mémoire. À la tombée du jour, j'atteins le cercle de la vie. Je ne suis pas l'errante de la ville, je suis la nomade de la toundra. Tu fais des films documentaires. On peut voir plusieurs de tes courts-métrages sur des plateformes comme Passe-Voix. Tu as réalisé un film Parole d'Inu et participé du projet Déterminé, consistant en une trentaine de courts-métrages documentaires pour réaliser sur les réalités autochtones au Québec. Tu fais des films documentaires. La mémoire collective semble orienter une partie importante de ta recherche. Que veux-tu retenir? Que doit-on retenir?
Beaucoup de choses, j'imagine, mais j'ai quand même commencé mon parcours en étudiant en droit. Je pense que la question de la justice et de la lutte contre les injustices au sens large a toujours été quelque chose qui m'a portée. C'est sûr qu'avec le temps, la pensée politique s'est affinée. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi, qui était déjà là, sur cette question-là. C'est sûr que la question de la mémoire, c'est quelque chose qui me fascine et qui à la fois me fâche dans le sens où j'ai toujours été terrorisée par ce qui relevait du mensonge. Et c'est pour ça que je disais tantôt, je ne crois pas à la vérité parce que je crois en plusieurs vérités. Mais il y a des vérités, il y a des lumières qui doivent être faites sur des événements. Et il y a aussi des réalités qui existent, qui sont tangibles et qui ne sont pas juste par le regard de quelqu'un qu'elles existent, mettons. Et il y a quelque chose dans le fait que l'histoire est toujours racontée par les gagnants, par les gens qui ont le pouvoir, par les gens qui ont le capital pour pouvoir écrire, pour pouvoir être lu aussi. Tu sais, parce qu'il y a écrire, mais il y a aussi avoir une visibilité. Ce n'est pas la même chose. Finalement, tu peux écrire tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas lu, quel impact est-ce que ça va avoir? Puis ça, c'est un peu toute la tragédie finalement des artistes qui ne sont pas vus ou dont le travail n'est pas regardé. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me bats pour créer des films et des projets qui essayent de révolutionner un peu le monde. Mais finalement, je me bagarre quand même aussi pour les distribuer parce que je ne veux pas m'arrêter à « bon, ben moi, je réalise ». Tu sais, puis à quelque part, de plus en plus, je vais dire que j'ai une pratique artistique, mais j'ai vraiment de la misère avec le terme « artiste ». Pareil, là, les artistes me gossent honnêtement. Genre, je suis comme… Ou en tout cas, la dépolitisation des artistes me gosse beaucoup. Moi, je ne veux pas produire de l'art pour produire de l'art ou produire des écrits pour produire des écrits. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, il y a quelque chose de profondément ancré politiquement ou activiste dans ma pratique, dans mon cinéma aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose autour de la diffusion, de la distribution. Et ce n'est pas forcément pour distribuer mon propre travail. D'ailleurs, les premiers courts-métrages que j'ai faits, toute la série de Déterminés n'est pas signée. Y a pas mon nom n'apparaît nulle part et je suis tout à fait à l'aise avec ça. L'anonymat était plus important pour moi à ce moment-là. Je n'avais pas envie de m'approprier quelque chose. Je n'avais pas envie de capitaliser dessus. Je n'avais pas envie d'en recevoir des avantages ou des bénéfices. Et c'est d'ailleurs pour ça que toute la capsule de Déterminé, c'est juste signé par des collectifs. Tu sais, c'est une réalisation du projet Déterminé et c'est un montage du projet Accompagnement Solidarité Colombie qui est le collectif qui a chapeauté Déterminé. Donc, on a voulu mettre tous les noms collectifs partout sur le générique, mais jamais nos noms personnels. Et je suis toujours à l'aise avec ça. Il n'y avait pas d'intérêt à ce moment-là, en tout cas, à porter à travers mon nom certains projets qui, en fait, étaient aussi des initiatives collectives, même si Déterminé, c'est sûr que ça a été 2 ans de ma vie où j'ai travaillé à temps plein là-dessus, hein, en fait, à ce que le projet puisse voir le jour, à penser le politique derrière. On est quand même un des premiers projets ici à avoir relié des questions par rapport à l'extractivisme, donc lutter contre l'exploitation des ressources naturelles à partir de minières, de pétrolières, mais aussi de transport du pétrole, d'hydroélectricité, de foresterie, même on pourrait rentrer l'agriculture intensive là-dedans. Et donc, c'était de penser des analyses féministes par rapport à l'exploitation des ressources, et c'était en fait de dire, bon ben, comment est-ce que les femmes et les personnes oppressées de par le genre sont en première ligne à la fois des combats par rapport aux luttes contre l'extractivisme, mais aussi comment est-ce qu'elles sont les premières touchées par l'exploitation des ressources et par les destructions environnementales. Donc c'était vraiment d'allier des analyses féministes avec des analyses écologistes, finalement. Et on a été un peu dans les premiers, ici, en tout cas, même si, évidemment, il y a plein de gens qui, sans le nommer comme tel, avaient développé des analyses là-dessus depuis des années, mais on a été quand même les premiers à monter, en tout cas, un projet d'éducation populaire qui essayait d'allier ces thématiques-là. Pour moi, il y a la question de la colère, là, face à qui est mal représenté, mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Il y a toujours eu cette envie de vérité, cette envie que lumière soit faite sur les choses. Et à travers le temps, à travers l'exploration d'une et une certaine pensée politique qui s'est mise en place, il y a vraiment eu cette envie que des mémoires collectives soient faites sur des choses et de donner la parole à des communautés exclues, des communautés marginalisées qui en ont peu, de participer à ce processus-là, de faire mémoire ensemble, d'écrire, de relater des choses et de donner une place dans l'espace public aussi à des groupes et des communautés qui en ont peu, d'être une sorte de vecteur, d'être une sorte de pont, en fait, encore une fois, de pont comme une forme de vecteur de transmission. Je pense que j'ai attelé mon travail, mon corps, ma personne à essayer de faire ça. C'est pas juste ça que je fais, évidemment, mais il y a aussi ça. Baki, Mutani, Nukuka.
Upon our skin. Dear Lord, where are we going? All our forefathers got was the whip with their backs. Hard work, dead and buried in a hole, no box. Jesus, why don't they paint you black? Your kin to Solomon, man, he was black. He rot in the ghettos, the pusher owned a friend. Each time a man tried to help us, his life suddenly ends. Good God, if a brother takes a stand, he's either arrested or the 10 most wanted men. We fight the wars, die for the country. Yet a deadlock soldier couldn't be buried in the same cemetery.
Donner la parole. J'avais lu ça, une association qui donne la parole au peuple autochtone du Québec. Au moment où tu donnes la parole, tu as déjà un privilège.
Bien sûr.
C'est un peu comme si nous, on l'a, on vous la donne, on vous la reprend peut-être. On est dans une position... Comment ça se passe? Comment vous faites quand vous donnez la parole? Vous allez comment? Vous allez vers qui? Vous choisissez comment les sujets?
Là, tu parles par rapport au projet déterminé ou oui. En général?
Oui, en général. Mais bon, je ne sais pas si on aura le temps.
Ben, c'est sûr que c'est hyper compliqué dans le sens où, comme tu le dis, c'est déjà avoir un privilège de pouvoir dire ça. C'est vrai qu'on est déjà dans une... C'est-à-dire que...
Il y a un déséquilibre.
Cette phrase, c'est oui. Un déséquilibre, exactement. Ça contient intrinsèquement la contradiction même de qu'est-ce qu'on ne veut pas produire.
Oui.
Donc, c'est hyper compliqué. Moi, je pense qu'on peut mettre en place certaines choses pour essayer de contrer ça, mais on ne peut pas se défaire entièrement de nos privilèges. C'est comme un peu avec le travail du projet Accompagnement Solidarité Colombie, où on a beaucoup réfléchi à la question de comment transférer nos privilèges. Comment est-ce que des personnes blanches, des personnes canadiennes, peuvent transférer leurs privilèges, par exemple en faisant de l'accompagnement international en Colombie et en se mettant en jeu et en disant, ben, en fait, par exemple, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça serait quand même long d'expliquer toute notre pensée par rapport à la question de l'accompagnement international et du transfert de privilèges, mais c'est le fait de dire, on va travailler avec des communautés, des mouvements sociaux qui nous demandent de l'appui. Donc, ce n'est pas nous qui décidons où est-ce qu'on va aller, mais c'est vraiment, on travaille avec des communautés de base, des mouvements de base, qui sont en Colombie en résistance pour la défense de la vie, de l'eau, de la justice sociale, de la terre, et qui vont dire, ben, nous, on a besoin de personnes qui viennent nous accompagner pour faire ça, 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 parce que, par exemple, notre vie, notre sécurité est menacée et est en danger. Donc, par exemple, tel leader qui potentiellement pourrait être enlevé ou tué, assassiné par l'État ou par des paramilitaires ou par des entreprises qui investissent en Colombie ou qui sont installés en Colombie et qui, pour beaucoup, sont des entreprises canadiennes par ailleurs. On a besoin d'un accompagnement pour augmenter un peu la sécurité de ces personnes-là. Une personne qui va effectuer un trajet et qui, dans ce trajet-là, il y a un risque pour sa sécurité, pour son intégrité physique. Au tout début, le travail du PASC, c'était vraiment pour des communautés qui s'étaient faites expulser de leur territoire parce qu'il y avait la palme africaine qui s'était imposée, qui s'est installée sur leur terre. Donc, c'est des communautés qui ont été complètement évincées. La palme africaine a été imposée sur leur territoire et c'est des communautés qui voulaient revenir sur leur territoire et qui donc demandaient un accompagnement pour être un peu sécurisés avec des gens qui disent ben « Nous, on est du Canada, on est des observateurs internationaux et on a par exemple l'ambassade canadienne qui est derrière nous où on a des médias, des journalistes, une communauté au Canada qui va nous soutenir s'il nous arrive quelque chose. » C'est hyper trash parce qu'en fait, c'est de dire que politiquement, de par la société, la vie de certaines personnes vaut plus que la vie de d'autres. Donc, on est en train de jouer avec un système qu'on dénonce. Mais c'est une manière aussi de se mettre en jeu et de dire « bon, bah, en fait, j'en ai un privilège, qu'est-ce que j'en fais de ce privilège-là » Je peux le mettre en jeu pour le transférer. Est-ce que c'est un réel transfert ? Non, bien sûr que non. Mais c'est une manière de faire avec un système de marre dans lequel on est, qu'on dénonce. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire, je ne dis pas que c'est la seule. C'est un essai en tout cas. Peut-être que dans 10 ans, nous-mêmes, on va dire « Ah, on n'aurait jamais dû faire ça ». Je ne sais pas. Il faut toujours avoir des processus d'autocritique face aux mécanismes politiques, aux champs de lutte et à nos manières de faire. Mais ça, c'en est un. Dans le projet déterminé, on voulait donner la parole à des personnes qui résistaient. C'était ça le point de départ. Et c'est pour ça qu'on a fait 30 capsules audio vidéo, c'est qu'on voulait que chaque capsule représente la parole d'une personne. On ne voulait pas mixer les paroles tout ensemble, on voulait vraiment que... Bon, après, il y a une capsule où il y a 3 femmes, mais c'est parce que ces femmes-là voulaient parler ensemble, elles voulaient parler à travers 3 générations de la question écologique. Comment est-ce qu'on choisissait ? On demandait vraiment aux gens qu'on connaissait et au-delà, on essayait de ratisser large en diffusant le projet et en essayant de trouver des gens qui avaient envie de parler à la caméra et des gens qui avaient des positions qui faisaient du sens un peu avec les nôtres, même si évidemment elles sont toujours différentes. C'est essayer d'aller récolter de la parole de gens qui veulent parler à l'écran de la question de leur lien au territoire, de comment est-ce qu'ils conçoivent ce territoire-là, de comment est-ce que les développements extractifs impactaient leur territoire, comment est-ce qu'ils se mobilisaient contre ça et comment est-ce qu'en tant que femme ou personne oppressée de par le genre, ils étaient particulièrement touchés par les dégâts environnementaux. Évidemment, c'est sûr que nous, après, on s'est posé plein de questions dans les années d'après quand on a fait le montage, mais aussi la diffusion de ces capsules-là, c'était de se dire, mais c'est nous qui décidons finalement dans le montage qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre et comment est-ce que c'est extrêmement incohérent avec le point de vue politique qu'on essaye d'avoir, de continuer à avoir un certain pouvoir là-dedans. Donc, c'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on renvoyait avant, évidemment, toute diffusion aux personnes, les capsules, et on pouvait essayer de travailler avec elles sur, OK, est-ce que la manière dont c'est monté, est-ce que ça te convient ? Est-ce qu'il y a plutôt telle autre thématique dont tu as parlé que tu voudrais plus mettre de l'avant ou pas ? Donc, on engageait une discussion avec les personnes qui essayait de contrer un tout petit peu, de manière vraiment minime, le pouvoir qu'on avait, qui était celui de finalement quand même nous être derrière nos écrans en train de faire du montage. C'est sûr qu'à refaire aujourd'hui, peut-être que je ferais ça différemment, peut-être que j'essaierais plutôt de, je ne sais pas, transférer des outils et que les gens fassent eux-mêmes les choses. Mais même à ça, transférer des outils, c'est quand même moi qui décide quels outils je transfère. Fait que, t'sais, c'est comme, y a toujours, je pense, de l'incohérence. Et puis d'un projet à l'autre aussi, moi, j'apprends et je fais les choses différemment. Après, dans d'autres films sur lesquels j'ai travaillé à l'intérieur de ma communauté, c'est là, cette question-là était plus facile, même s'il y a d'autres questions que ça pose. Mais il y avait quelque chose de parler à partir d'une communauté qui est la mienne. Ma légitimité est tout à fait différente. Oui, je donne la parole, mais en même temps, je prends la parole.
D'ailleurs, on revient à ta communauté, puisque le film Éviction, dont j'ai parlé au début de l'émission, ton deuxième long métrage documentaire, qui sera projeté dans le festival, je crois que c'est la 30e édition du festival Chéri Chéri à MK2 Beaubourg, le 17 novembre prochain, à 13h30. Donc, il s'agit d'une communauté queer du centre de l'Incidie Montréal, qui se fait expulser de son espace collectif après y avoir habité une douzaine d'années. Le film est le récit de cet espace et du devenir de cinq de ses habitants, habitantes, dans leur recherche d'un logement. Mémoire, lieu, personne, tu déroules dans ce film une histoire de la scène queer montréalaise. Il y a la perte d'un lieu collectif, d'un grand espace de vie, d'accueil, de passage, de fête, difficile à remplacer dans un contexte de crise de logement, de spéculation foncière, qui touche non seulement les queers, mais aussi d'autres populations d'ailleurs. Comment est venue l'idée, de ce film?
C'est intéressant parce que tu vois aujourd'hui le film, ce film-là, Éviction, il est vraiment à l'orée entre des questions et des réflexions et des thématiques autour de la crise du logement et aussi autour des communautés queer et des communautés queer, mais aussi des communautés alternatives de vie parce que, bon, Parthenay, c'est le nom de l'espace. Donc, j'utilise souvent le mot Parthenay pour décrire le film parce que c'est le nom du lieu, en fait, où les gens habitaient, les gens qui se sont fait évincer. Et Parthenay, c'était, oui, un lieu queer, mais c'était aussi un lieu où on pouvait vivre autrement. C'est pour ça que ça parle à toutes les gens qui habitent dans des collectifs d'habitation, parce que c'est pas juste quelque chose de queer, mais c'est aussi une manière différente d'être au monde. Le point de départ, pour moi, étonnamment, c'est pas la crise du logement. Le point de départ, c'est j'ai des amis, des gens que j'aime beaucoup, qui habitent dans un lieu qui m'est cher, un lieu, tantôt je parlais de la cartographie, là, du fait que moi j'ai souvent comme un, dans ma tête, j'ai souvent une cartographie mentale des lieux où j'ai habité ou des lieux où j'ai passé beaucoup de temps, des lieux qui me sont chers, des lieux qui sont importants pour moi. Et ben, ce lieu-là, il faisait partie de ma cartographie mentale de la ville de Montréal, du Hochelaga, comme un point de repère, un lieu où je pouvais exister, un lieu où je pouvais aller, un lieu où je pouvais débarquer n'importe quand. Je passais par là et je pouvais m'arrêter pour prendre un café. Un lieu où j'ai pu être hébergée pendant 2 fois 2 semaines, où j'ai pu passer du temps, où il y avait de l'amitié, il y avait une forme de famille, une forme de famille choisie. Et le point de départ du film, moi, c'est la tristesse de la perte de ce lieu-là, en fait. Et comme je le disais tantôt, là, je suis quand même très nostalgique dans la vie, nostalgique des espaces des années 80 que j'ai pas connus dans les communautés lesbiennes, mais aussi nostalgique des choses qu'on perd, des choses qui n'existent plus, des choses qui se dématérialisent. C'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Et le fait que cet espace-là, qui avait duré 13 ans, n'allait plus exister, ça m'a terrorisée aussi, même si je n'y habitais pas, en fait, même si c'est pas ma maison. Donc, bien sûr, ça a un impact beaucoup plus grand pour les gens que c'est leur maison. Mais il y avait quelque chose de dire, mais on va encore perdre un espace important pour nous. Il y avait un sentiment d'injustice, évidemment, encore de, il y en a marre, en fait, que année après année, on perd de plus en plus nos lieux d'organisation, nos lieux d'existence et même nos habitations. Donc, il y avait ça. Et il y avait évidemment la tristesse de voir mes amis qui allaient être déracinés.
C'est difficile de trouver un autre espace, un grand espace pour se loger pour un groupe un peu marginal, j'imagine aussi, non?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est à Montréal, du Hochelaga, et au Québec en général, dans ce qu'on appelle le Québec, on est face à une crise du logement monstrueuse aujourd'hui. On parle au Québec, toutes les 6 minutes, il y a un foyer qui perd son logement. On parle d'une augmentation de 14%, je pense, du prix des loyers juste en 2023. Un 3,5, c'est un salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain. En 2010, ça coûtait $500. Aujourd'hui, ça coûte $1,200. Il y a énormément de logements abordables qui ont disparu dans les dernières années. Il y a 75% d'augmentation des loyers depuis 2002. Et aussi, il y a 0,46% des propriétaires qui possèdent 31% du parc locatif à Montréal. Donc, c'est hallucinant. C'est vraiment, on est vraiment face à une petite poignée de personnes qui détiennent énormément de logements. Et on est face à une accélération, en fait. Évidemment, on parle de processus de gentrification depuis des années à Montréal. Il y a des quartiers, comme par exemple le Plateau Mont-Royal, qui était un quartier ouvrier qui s'est énormément gentrifié, qui aujourd'hui c'est devenu extrêmement bobo. C'est le quartier d'ailleurs des Français-Françaises. Il y a beaucoup, beaucoup qui habitent là et qui ont changé drastiquement le visage de ce quartier. Et là, un des quartiers dans lequel j'ai longtemps habité, qui est Hochelaga-Maisonneuve, qui fait aussi face à une gentrification massive depuis plusieurs années. Mais là, on a vraiment une grande, grande, grande accélération depuis, je dirais, 5-6 ans. C'est une gentrification qui s'accélère, qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus drastique, avec une augmentation sans précédent du prix des loyers, avec énormément de spéculation immobilière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les flips, là, le fait d'acheter des logements pour faire de l'argent sur le logement sans objectif d'y habiter. Et cette augmentation aussi du prix des loyers fait que dans certains quartiers populaires ou historiquement populaires, on parle de 25% d'augmentation dans les 4 dernières années, quartiers comme Verdun, Hochelaga, le sud-ouest. Donc, c'est des quartiers populaires avec une gentrification très récente qui étaient des quartiers anciennement excentrés, mais qui ne le sont plus parce qu'ils deviennent aujourd'hui beaucoup plus centraux à cause de la gentrification. Ça, c'est un contexte où ces populations-là, originelles des quartiers historiques de Montréal, vont être expulsées de leur quartier et ils ne peuvent plus habiter sur l'île parce qu'ils ne trouvent plus de logement. Donc, on est aussi en train d'effacer l'histoire. Là, ça fait du sens aussi avec la question de la mémoire, mais c'est que on est en train d'effacer l'histoire et de défaire le tissu social des quartiers. Et donc, on est en train de changer le visage de la ville de Montréal en tant que telle. Évidemment, ça touche toutes les communautés qui sont davantage marginalisées. Donc, ça va toucher des communautés noires autochtones et racisées. Ça va toucher évidemment les communautés pauvres. Et ça va toucher aussi les communautés queer, les communautés LGBTQIA2+, et encore plus toutes les personnes qui se situent à l'orée de ces communautés, parce que ce n'est pas des vases clos, évidemment. Hein. Il y a des personnes qui se situent dans plusieurs de ces communautés-là, et ces personnes-là sont encore plus touchées ou touchées différemment aussi par la crise du logement. Ben, Parthenay, c'était un point de repère, un lieu d'une communauté queer.
Pourquoi c'était si important un grand espace pour la communauté queer?
Ce que ça fait quand on perd ces espaces-là, c'est qu'on perd des refuges, en fait. Parthenay, c'était aussi un refuge pour plein de personnes. Tu sais, plein de personnes pouvaient arriver là, qui par exemple étaient en rupture avec leur famille de sang. Parce que quand t'es queer, même si la situation s'est améliorée, en tout cas ici, c'est pas généralisable non plus, même si ça s'est amélioré pour des personnes gays, lesbiennes et aussi des personnes trans. Mais je veux dire, ça reste difficile d'être queer, d'être trans aujourd'hui, même ici au Québec. Des fois, ça amène à des ruptures avec nos familles. Il y a des jeunes qui doivent quitter chez eux très tôt parce qu'ils sont queer. C'est moins présent qu'avant, mais ça l'est toujours. Et donc, les lieux comme Parthenay, c'est des lieux d'accueil, c'est des lieux où on peut se regrouper, où on peut échanger des codes, c'est des lieux de transmission d'une sous-culture aussi, c'est des lieux où on apprend qu'est-ce que c'est qu'être queer, comment draguer, comment prendre des hormones, comment avoir accès à des ressources, quel médecin est trans-inclusif, où est-ce que je peux aller dans telle ou telle clinique pour avoir accès à des soins par rapport à des questions de santé mentale, où est-ce que je peux trouver un psy qui va comprendre un peu les enjeux ou qui va me permettre de me donner les papiers pour que je puisse avoir des hormones. Tu sais, il y a comme toute cette question-là de pratiques sous-culturelles qui pouvaient s'échanger, qui peut s'échanger dans un lieu comme Parthenay. Ce qui est intéressant aussi d'un lieu comme Parthenay, c'est que c'est un lieu en dehors du système marchand. On n'est pas dans un bar, on n'est pas non plus dans le communautaire, qui pourrait être, quand je dis communautaire, c'est l'équivalent de l'associatif en France. Le communautaire est très important, mais on est quand même dans un rapport de service, qui n'est pas la même chose dans un lieu comme Parthenay, qui est une habitation où le rapport de pouvoir n'est pas le même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir, il y en a aussi parce qu'il y en a dans tous les espaces de vie. Vie égale pouvoir et égale résistance aussi, mais il y a quelque chose dans ces lieux-là où on n'est pas obligé de consommer et où on ne vient pas chercher un service qui permet l'existence de familles alternatives. Et ça, c'est des grands espaces qui le permettent. C'est des grands espaces comme Parthenay où il y avait plusieurs chambres, il y avait 6 chambres fermées appartenaient. Il y avait un grand salon double, une salle à manger, une immense cuisine, une cour, une galerie en avant, un immense sous-sol, 2 salles de bain. Tu sais, c'était un grand, grand, grand appartement. Et ce que ça permet, ça, c'est que ça permet d'avoir des énormes parties, parce que Parthenay, c'était une place de party, c'est une place de fête qui regroupait 200, 300 personnes lorsqu'il y en avait. Il n'y en avait pas toutes les fins de semaine, mais il y en avait peut-être 2 gros parties par année, qui est quand même un moment qui était très apprécié par la communauté, qui regroupait plein de gens très différents d'ailleurs. Et c'était aussi un lieu de quotidienneté, un lieu où on pouvait se faire inviter à souper. Ça pouvait être un point de départ d'organisation d'une manif ou d'organisation de l'écriture d'un zine, d'une projection. Tu sais, c'était un lieu de regroupement. Voilà. Et le fait que ce soit un grand espace, ben, ça permet ça. Moi, je pense que les lieux, les espaces vont avoir une influence monstrueuse sur qu'est-ce qui peut s'y passer. Et comment les lieux sont agencés, comment les lieux sont disposés, ça permet ou non l'existence de tel ou tel type de relations sociales et de liens sociaux. Et on est face à des communautés qui ont besoin, qui ont un grand besoin de lien social. Le fait que, là je reviens à la question de la crise du logement, la crise du logement, ce que ça fait aussi en ce moment, c'est qu'on a des grosses entreprises qui rachètent des buildings et qui font ce qu'on appelle, bon, faire comme des rénovictions, c'est-à-dire ils vont évincer les gens et ils vont faire soi-disant des rénovations, mais en fait c'est souvent des rénovations bidons, et qui vont doubler ou tripler le prix des loyers. Mais aussi des entreprises qui rachètent des grands appartements et qui font ce qu'on appelle les subdivisions. Donc, qui vont en fait splitter les grands appartements comme Parthenay pour en faire plusieurs 3,5 ou plusieurs 4,5 pour pouvoir capitaliser dessus, pour pouvoir les louer, déjà les louer plus cher, mais les louer à plus de gens. Et ça entretient une certaine vision de la famille, de la normalité, du système d'organisation sociale où on va louer à des personnes seules ou à des couples avec des enfants, à des couples hétérosexuels avec des enfants ou à certaines formes de famille qui fitent dans une certaine normalité. Mais ce que Parthenay permettait, c'était autre chose, c'était une autre forme de vie, une autre forme d'organisation. Et plus on perd ces grands lieux-là, ben moins on peut exister de cette manière-là. Et quand je dis exister de cette manière-là, et là je reviens à la question du collectif d'habitation, c'est pas juste être queer, c'est aussi ce qui se passait là-bas, c'était aussi de la solidarité matérielle, de la solidarité affective, de la solidarité émotionnelle, c'était de l'entraide, c'était la mise en commun en fait. C'est comme une grande fratrie.
Le film a reçu le prix du public lors de la rencontre du documentaire à Le Soir dit Montréal. Si le prix du jury, des professionnels sont importants, le prix du public, c'est une consécration. Comment l'as-tu ressenti?
C'est sûr que pour moi, c'était un moment incroyable. Le lancement du film au RIDM, ça a été un moment absolument incroyable. Moi, ce que j'avais décidé pour Éviction, j'avais proposé aux gens de ne pas voir le film avant le lancement et qu'on le découvre tout le monde ensemble, que les protagonistes de l'histoire et l'équipe aussi, à part les gens qui avaient travaillé sur la post-production, tout le monde l'a découvert ensemble au moment du lancement. Donc, c'était un moment absolument extraordinaire. Et aussi, j'avais organisé après ça un micro ouvert à la Cinémathèque qui avait accepté de nous passer une grande salle pour organiser une soirée festive de lancement du film où il y avait plein de gens qui sont venus et le micro ouvert réunissait plusieurs personnes qui prenaient la parole pour parler à la fois de la crise du logement mais aussi de la question des espaces queer et de l'importance des espaces queer pour la communauté.
Et si vous voulez les entendre, vous pouvez les retrouver sur le podcast Les scènes ou ces endroits oubliés de l'émission Un coin quelque part.
Donc, il y avait comme quelque chose d'assez festif et je voulais recréer un moment, en fait. Je voulais recréer quelque chose qui allait permettre de réunir tous ces gens-là qui étaient un an après l'éviction de leur lieu. Et parce que, bon, Parthenay, comme je le dis, c'était un lieu important pour les gens qui y habitaient, bien sûr, mais aussi pour les anciennes personnes qui y avaient habité, mais aussi pour toute la communauté. D'avoir le prix du public au RIDM, c'était extraordinaire. C'était les gens qui sont venus, notamment à la première projection. C'était l'euphorie dans la salle, dans le sens où les gens se voyaient à l'écran, reconnaissaient les lieux, riaient. On voyait nos amis, on se voyait nous-mêmes à l'écran, on voyait notre lieu. Et c'était beaucoup des gens de la communauté, des amis qui étaient présents et des gens de l'équipe du film aussi qui étaient dans la salle. Donc, qui vote pour le prix du public? C'est les gens qui sont dans la salle au moment des projections. Évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement touchant que le film ait plu, que les gens qui étaient là aient aimé le film. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième projection, oui, il y avait encore des amis à moi, mais il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas, que les gens aussi, à ce moment-là, aient voté pour Éviction. Mais là, c'est sûr que pour moi, pour mon travail, c'est une reconnaissance extraordinaire. Mais aussi au niveau cinématographique, c'est une énorme reconnaissance parce que moi, Éviction, c'est la première fois que là, j'ai un film qui est montré dans un festival de documentaires, donc un festival spécifique documentaire, qui n'est pas seulement LGBT. Même si je trouve ça super que mes films soient diffusés dans des festivals LGBT, évidemment. Parce que La Fabrique du consentement, il a été diffusé dans beaucoup, beaucoup de festivals, mais beaucoup de festivals qui sont à thématique LGBT. Et donc là, d'avoir un film qui est diffusé dans un festival vraiment de reconnaissance internationale et qui n'est pas spécifique juste LGBT, au niveau de la pratique artistique, de la pratique documentaire, il y a quand même quelque chose de différent pour moi. Et là, d'avoir le prix du public, c'est sûr que c'est une consécration extraordinaire. Et après, quand j'ai fait la sortie cinéma du film ici, dans ce qu'on appelle le Québec, au printemps dernier, évidemment, j'ai travaillé très fort pour que ça puisse arriver. Mais le fait que le film ait reçu le prix du public, ça a facilité mon entrée dans plusieurs cinémas, parce que le film avait déjà une reconnaissance et une notoriété, finalement.
Je serais tentée de penser que dans tous les aspects de ton travail, de tes revendications, luttes politiques, tu te positionnes dans une sous-culture, parfois dans une contre-culture. On dit marginal et on pense à quelque chose à corriger presque. Est-ce que la marginalité n'est pas une meilleure position? Pour observer, pour ne pas être récupéré, pour agir, pour rester autre.
Tu as tout à fait raison. Je me sens faire partie de plusieurs sous-cultures et oui, d'une contre-culture, ça c'est certain. C'est sûr, là j'ai parlé beaucoup des communautés queer aussi, mais moi je fais aussi, c'est très clairement partie aussi du large spectre de la gauche radicale, mettons. Fait que, c'est sûr que Ça me permet de porter des idées, des idéaux, des luttes. Et je pense, comme tu le dis, que la marginalité, c'est être à l'orée de quelque chose qui est un point de départ et une position qui est intéressante pour penser le monde. Je pense qu'à partir du moment où on se fait rattraper par la norme, c'est plus intéressant. Et puis pourtant, tu sais, c'est contradictoire aussi parce que des fois, on a des objectifs de lutte qui peuvent donner l'impression qu'on approfondit, qu'on va se normaliser. C'est comme par exemple les luttes pour le mariage gay
Oui.
et lesbien, mettons. Moi, je ne serais pas sortie dans la rue pour ça. Par contre, je vais sortir dans la rue contre ceux qui s'y opposent, tu vois. Dans le sens où, pour moi, ce n'est pas une revendication que je trouve intéressante. Je m'en fiche un peu de me marier. Pour moi, c'est quelque chose de très hétéronormatif. Je n'ai pas envie de cette petite vie normative à être en relation de couple avec deux enfants et un chien et une maison à la campagne. Ce n'est pas quelque chose qui me stimule ou que j'ai envie de porter des manières d'être au monde qui sont différentes. Et donc, je pense que dès qu'on est rattrapé par la norme, pour moi, c'est une forme d'échec d'une certaine manière. Mais après, ça n'enlève pas le fait que je pense que ces combats-là sont importants. Là, tu sais, je parle du combat pour le mariage gay et lesbien. Je vais absolument pas cracher sur les gens qui se sont mobilisés pour. Là, tu sais, je veux dire, il y a d'autres combats. Là, tu sais, faut choisir nos ennemis aussi. C'est un peu comme on va lutter pour l'abolition des prisons, mais pourtant on va pas être contre l'amélioration des conditions de vie des prisonniers prisonnières. Évidemment, j'ai envie que des personnes qui sont en prison soient dans des conditions qui s'améliorent, même si il faut pas perdre de vue l'objectif plus loin qui est en fait l'abolition. C'est comme toute cette question-là du débat entre réformisme et transformation radicale. Moi, c'est un débat qui m'intéresse plus, en fait. Oui, bien sûr, je veux une transformation radicale et profonde, mais est-ce que ça veut dire que je vais m'empêcher de lutter pour des choses qui peuvent paraître réformistes dans l'instant présent, mais qui améliorent la condition de vie des personnes et des communautés? Non, je vais complètement être pour ça aussi. C'est une question complexe, mais en tout cas, pour moi, la marginalité est une revendication. C'est un poids aussi, mais c'est aussi une revendication.
Tu es proche d'un cinéma direct, d'observation, militant. Tu penses réaliser un jour aussi des fictions?
Pour le moment, ce n'est pas la chose qui me tente le plus, la fiction. Je pense que je suis vraiment plus intéressée par le fait de raconter le réel tel qu'il est. Ceci dit, je suis quand même vraiment fascinée par tous les films qui naviguent à l'orée entre la fiction et le documentaire, ça
D'ailleurs,
c'est
c'était
sûr.
aussi ma question. Est-ce que tu vois une différence entre la fiction et le documentaire? Un réalisateur, Frederick Wiseman, que j'adore, on le présente comme auteur de documentaire, dit que ce n'est pas des films documentaires qu'il fait, que tout se joue au montage.
C'est hyper intéressant parce que je suis quand même d'accord avec lui dans le sens où le documentaire, c'est toujours un regard. C'est pour ça que moi, je considère que je fais du documentaire d'auteur, dans le sens où je ne crois pas du tout à l'objectivité. Je pense qu'il y a toujours un point de vue subjectif sur une chose et à partir du moment où tu poses un regard, tu n'es plus dans la vérité ultime, en fait. Et là, déjà, je pose un regard, donc déjà, c'est analysé par mon spectre, par mes yeux. Mais là, en plus, je pose une caméra, donc c'est en plus analysé par la caméra à travers mon propre regard. Et là, il y a le regard de plein d'autres mondes qui passent derrière, parce que quand on fait un film, on travaille avec toute une série de gens qui vont apporter leur couleur, leur teinte, leur regard. Je l'ai vu avec Eviction, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe absolument extraordinaire, à la fois en production mais aussi en post-production. La personne qui fait le montage d'image, la personne qui fait le montage son, les personnes qui ont fait la musique. Tu sais, c'est toutes des personnes qui ont amené vraiment leur couleur, même la personne à la colorisation, le mixage son. Tu sais, la personne qui a fait le graphisme aussi, qui a choisi comme la police, ça crée vraiment comme quelque chose qui fait que c'est. Mais là, peut-être que ça se rapproche un peu plus de la question que c'est un objet d'art finalement, c'est un objet en tant que tel, c'est un objet qui parle pour lui-même, c'est un objet qui nous dépasse. C'est aussi. Moi, je le dis souvent à mes protagonistes dans Eviction parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose de se voir représenter à l'écran, puis d'avoir sa vie exposée, son intimité, dévoilée. Mais oui. Mais finalement, des fois, je leur dis, mais c'est plus vous. C'est vous, mais c'est plus vous. C'est dans le sens où vous êtes devenus des protagonistes parce que vous avez montré une partie de votre vie qui est une fraction de vérité à un moment X donné, mais qui est à travers le regard de plein d'autres mondes. Là, ça tend à dire que ce n'est pas vraiment. Il y a une différence entre peut-être documentaire et documenté. Le travail que je fais là encore plus avec le film, c'est vraiment plus un regard d'auteur sur une situation, une vérité, une existence. Et je pense que ça, peut-être, ça fait que dans ce qu'on appelle documentaire ou fiction, peut-être que ça brouille les cartes et ça brouille les frontières. Mais je ne pense pas que je fais de la fiction. Vraiment, je ne fais pas de la fiction parce que je raconte aussi des choses qui existent avec des perspectives de transformation sociale et politique. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas que je m'inscris dans le cadre de la fiction. Mais ceci dit, il y a plein de fictions qui se rapprochent aussi de mon travail. Il y a plein de fictions avec des gens qui font des années et des années de recherche qui ressemblent à une recherche documentaire pour finalement produire un film qui est de la fiction, mais qui en fait est là pour parler, pour dénoncer, pour mettre en lumière des situations. C'est un peu là-dessus que le cadre est brouillé. Donc peut-être qu'en fait, la distinction fiction slash documentaire, c'est plus une question de quel point de vue est-ce qu'on porte sur les choses. Puis moi, j'ai l'impression, à date en tout cas, que je suis plus allée chercher des codes qui sont de manière traditionnelle associés au documentaire, mettons.
Quelles seraient les formes utiles pour toi? Ou des formes utiles? Une forme utile?
C'est une bonne question. Je pense que pour moi, une forme utile serait comme quelque chose qui allie, qui permet de réunir plusieurs personnes, une pensée collective qui crée quelque chose ensemble qui dépasse cette collectivité de base. Et que cette forme-là crée, produit et transforme la collectivité en retour. Quelque chose de, à la fois de révolutionnaire là-dedans et à la fois de rassurant ou qui me rassure face à la possibilité de l'existence. Le fait qu'un groupe, une collectivité puisse penser un objet d'art, un objet de création qui a lui-même un pouvoir derrière. Ça, pour moi, c'est une forme utile.
Et la responsabilité de l'artiste? Y a-t-il une responsabilité?
Oh oui, il y en a plein. Je pense que... Oui, moi, je suis... Mais ça, c'est peut-être parce que... C'est intéressant parce que, tu vois, à un moment donné, j'avais parlé avec une amie qui avait étudié cinéma, qui me disait que... Et qui avait vraiment une version, une vision de l'éthique profondément différente de la mienne. Elle avait réalisé un documentaire et... À un moment donné, elle avait laissé rouler sa caméra sans que la personne le sache. Elle est en interaction avec la personne, elle fait un portrait, là, son documentaire, et elle est chez la personne, et elle laisse la caméra rouler. Et c'est ça qui devient finalement un peu, très, très honnêtement, le film était très bon, mais c'est quand même des moments dans les meilleurs de son film. C'est ces moments-là, elle a réussi à capter l'énergie de la personne et un discours et des trucs, et des choses par rapport à leur relation à tous les deux aussi. En fait, la personne était... un peu exaspérée à la caméra de mon amie, de la cinéaste. Et c'est un peu le meilleur moment, mais elle a quand même laissé rouler la caméra sans lui dire. Ça me fait penser à un autre film aussi, une autre personne qui, pareil, faisait un film sur son frère. Mais là, c'était sans le faire exprès. C'est dans une scène sur le balcon. Elle laisse la caméra rouler, mais en fait, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle n'avait pas éteint. Le frère est tout seul, là, sur le balcon, en train de fumer des cigarettes. Et là, elle capte quelque chose d'absolument extraordinaire de son frère. Mais... moi, je ne me sens pas à l'aise de faire ce genre de truc-là. Tu vois, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'éthique qui est très présent chez moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai travaillé aussi. J'ai fait quand même un long métrage sur le consentement aussi.
Donc, j'aurais voulu qu'on oui. en parle, mais on n'a plus le temps.
Oui, c'est voilà. ça. Mais bon, il est en ligne, là, si les gens veulent voir. Il est disponible en ligne. Mais oui, je pense qu'on a une responsabilité. Moi, je suis attachée à la question de l'éthique en documentaire aussi. Pour moi, parler de la responsabilité plus par rapport à nos protagonistes, par rapport à nos sujets, par rapport aux gens avec lesquels on travaille. Mais je pense qu'aussi, on a une responsabilité en tant que personne qui prenant la parole dans la sphère publique. Et là, ça fait du pont sur d'autres choses dont on a discuté aujourd'hui. Mais à partir du moment où on prend la parole, on a une responsabilité de la manière dont on le raconte, mais aussi on a une responsabilité par rapport à qu'est-ce qu'on produit dans le social. Et on a une responsabilité par rapport... aux injustices qui nous entourent, tu sais. Et j'ai participé à une discussion entre plusieurs cinéastes dans un centre d'artistes où j'ai été invitée à parler d'éviction. Et il y a un artiste, Sami Benhamar, dont j'aime beaucoup le travail d'ailleurs, qui a dit « À travers ton film, à travers éviction, tu dresses le portrait d'une communauté, mais combien d'évictions tu invisibilises ?» en ayant fait ce film-là. Et ça m'a vraiment... mais c'était pas une attaque envers moi du tout.
Oui, oui,
j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Ouais.
Et je me disais, mais c'est tellement vrai, en fait, qu'à chaque fois qu'on prend la parole et à chaque fois qu'on visibilise quelque chose, on laisse dans l'ombre, et même on met dans l'ombre, en fait, tellement d'autres personnes, communautés, lieux. Et le choix qu'on a de se saisir de tel ou tel sujet et de donner la parole à telle ou telle personne, à telle ou telle communauté, est un choix extrêmement difficile d'une part, mais c'est un choix qui produit de l'invisibilisation. Et en même temps, il faut qu'on se batte tout le temps contre, mais on n'a pas le choix de l'accepter et en même temps de l'intégrer réellement pour faire nos choix consciemment et réfléchir à comment on se saisit de tel ou tel sujet pour le mettre de l'avant, en fait.
Mathilde, je te remercie de ta présence. Je vais devoir clore cet entretien. J'ai pensé à un poème de Natasha Canapé-Fontane. Koukoum, qui signifie grand-mère en langue inoue. La cigarette persistait entre ton index et ton majeur, comme tant d'autres auparavant. Tes poumons s'évaporent. Quand tu brodais tes mocassins, c'était des souvenirs sur ma peau. Où sont mes cartes postales? Je les ai éparpillées. J'aimerais parfois que tu reviennes et me révèles ces récits qui ne racontent pas. Histoire oubliée ou simplement mise de côté, ce qu'on ne dit pas. Les enfants ne sont pas encore nés, mais je leur dirai. Tu as vécu, ils sauront que l'on a existé avant eux et que d'autres existeront après. Tout est un cercle.
C'est trop bon. T'as fait tellement des bons choix d'extraits.
Merci Mathilde.
Thank you.